RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Une nouvelle heure de grande gueule sur RMC, la radio, RMC Story, la télé, avec trois GG aujourd'hui. Le docteur Jérôme Marty et deux avocats, maître Sandrine Pégan et maître Charles Consigny. Dans un instant, on va s'intéresser au voyage de Laurent Nunez en Algérie, mais notez qu'à 11h, c'est Alexis Corbière qui sera notre invité politique face au GG. Alexis Corbière, vous savez, il a quitté les Insoumis, désormais il est dans le groupe écologique à l'Assemblée nationale. Les écolos, visiblement, ça va pas très fort et on s'annonce à une bérésina du côté des écologistes pour les municipales. Ils avaient raflé plein de villes il y a 6 ans et là, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis avec Alexis Corbière, on parlera bien sûr de la politique, Bruno Retailleau, le gouvernement. Et puis, vous savez qu'il est au sein de la commission d'enquête sur la sécurité au Louvre. On vient d'apprendre qu'il y avait une fraude à la billetterie au Louvre. Mais c'est un gag, hein. C'est pas possible, le Louvre. Hein. Mais que se passe-t-il? Bon, bref, on parlera de tout ça avec Alexis Corbière face au GG tout à l'heure à 11h. Nouvelle heure passée ensemble avec donc ce voyage surprise de Laurent Nunez en Algérie la semaine prochaine. Alors vous le savez, nos relations avec l'Algérie sont mauvaises depuis que Emmanuel Macron a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, depuis que l'Algérie refuse de reprendre nos OQTF et depuis surtout que mon confrère Christophe Glaize est en prison d'une façon totalement dingue, puisqu'il n'a rien fait, mais c'est un prisonnier politique. Il a pris 7 ans de prison par la justice algérienne. Et on a appris donc que Laurent Nunez allait se rendre sur place, ce qui a d'ailleurs provoqué la colère ce matin de Jean-Philippe Tanguy, le député RN, qui ne comprend pas pourquoi Laurent Nunez se rend sur place, puisque pour le moment, l'Algérie devrait libérer Christophe Glaize avant tout voyage. En même temps, on peut imaginer que Laurent Nunez y va pour essayer de débloquer la situation. Est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'il sera assez ferme, Laurent Nunez? Est-ce qu'il va s'imposer? Le 32-16 pour réagir, Jérôme Marty. Il a raison d'y aller, lundi et mardi?
Moi, je pense qu'il a raison d'y aller et je pense qu'il n'a pas droit à l'échec. Toute la difficulté est là, parce que s'il y va et qu'il revient et que Christophe Glaize n'est pas libéré, alors là, c'est un vrai désaveu. Et c'est
donc il prend un risque, là.
Il prend un risque, mais la politique, c'est aussi ça, quoi. La politique, c'est aussi ça. Il y a toujours eu des relations difficiles entre l'Algérie et la France, c'est peu de le dire. Elles sont encore plus difficiles actuellement et c'est donc pour cela qu'il faut précisément y aller. La diplomatie, c'est ça, on a tendance à l'oublier, c'est pas que des rapports frontaux. Il y a beaucoup de choses qui se passent en dessous, sans qu'on le sache. Donc il y a l'apparence et puis il y a tout ce qui va se discuter en dessous. Mais l'Algérie, c'est aussi des marchés pour la France. On peut pas complètement couper avec ce pays, mais ce qui se passe là-bas est absolument on peut pas accepter que on emprisonne un journaliste
donc
français
toi, tu dis,
qui, comme tu l'as dit, n'a rien fait.
Donc il doit revenir avec Christophe Glaize.
Il doit revenir avec Christophe Glaize, évidemment. Sans dealer n'importe quoi non plus, parce que la France n'est pas en position de faiblesse par rapport à l'Algérie. On doit être en position de force et donc il doit aller là-bas en amenant la force française, quoi. Je suis pas sûr que ce soit ça qui va se passer. C'est un petit peu ça qui m'inquiète, quoi.
Charles Consigny.
Ce que fait l'Algérie avec Christophe Glaize est inadmissible. Inadmissible, intolérable. On sent que, pour eux, somme toute, incarcérer quelqu'un qui est parfaitement innocent et ce qui paraît ne faire aucune espèce de débat, ils le font d'une manière assez désinvolte, sans tellement considérer que c'est d'une gravité exceptionnelle. Moi, je pense que ça aurait mérité le renvoi de l'ambassadeur. Ils ont plus d'ambassadeur, d'ailleurs, à Paris, mais bon. La rupture des relations diplomatiques, la crise diplomatique portée à haut niveau jusqu'à obtenir la libération de Christophe Glaize.
Ça, c'était la méthode ferme que préconisait Bruno Retailleau et qui a été refusée par Emmanuel Macron et Jean-Noël Barrot.
Je comprends pas.
Là, on est la méthode souple, on va dire.
Est-ce que dans les faits, il n'y a pas déjà une crise diplomatique?
Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi il la refuse. Je pense que, par exemple, s'attaquer effectivement à l'élite algérienne étatique qui notamment vient se soigner en France, qui bénéficie d'un certain nombre de passe-droits, qui dispose sans doute d'un certain nombre de biens sur le territoire français, me paraîtrait pas extravagant pour obtenir la libération rapide de Christophe Glaize. Vous savez, les États-Unis, quand ils ont un ressortissant qui est incarcéré sans preuve à l'étranger, croyez-moi qu'ils ont vite fait de le faire libérer.
Oui, mais dans ce cas, ils font pas de visite diplomatique.
Je pense que
donc il fallait pas y aller.
Ils devraient s'abstenir de toute visite. Ouais. Alors après, nous ne sommes pas dans le secret de leur tractation.
Est-ce qu'il faudrait pas faire l'inverse, c'est-à-dire exiger,
on parle sans savoir non plus.
Non, mais est-ce qu'il faudrait pas exiger la libération, et une fois que Christophe Glaize est libéré, on va sur place et on acte que ça va mieux.
Je suis d'accord, je pense que la libération de Christophe Glaize devrait être un préalable à toute visite d'officiel français sur le sol algérien.
Sandrine Pégan.
Mais il n'y va pas non plus que pour ça, Nunez. Hein. Il n'y va pas que pour...
Il y va aussi pour les questions sécuritaires.
C'est ça. Moi, j'ai juste envie de dire que la diplomatie, à un moment donné, c'est pas une thérapie de couple. Ça fait combien d'années que les Français entendent que oui, l'Algérie va enfin réadmettre ses OQTF, ses ressortissants, alors que c'est pas le cas. Donc, on a un peu l'impression que finalement, Laurent Nunez là se déplace en Algérie lundi et mardi. C'est une espèce de visite de la dernière chance. Mais derrière, comme tu disais, Jérôme, pourquoi je veux t'appeler Joram?
Oui, c'est curieux comme prénom. Oui.
Jérôme Boham.
Qu'est-ce qu'on va avoir en face? On met quoi dans la balance? On fait quoi au niveau des visas, au niveau de... Voilà, il y a tout un tas de choses. Mais nous, aujourd'hui, en tant que Français, on n'a pas envie d'avoir une poignée de main, un communiqué de frais, de presse, une photo officielle. On veut des résultats. Donc, s'il y va, il y va, mais qu'il revienne avec des engagements qui soient clairs.
On espère que ça a été bien préparé avant et qu'il est dans la certitude qu'il va obtenir des choses. Parce que s'il rentre en disant « bon, ça va mieux », mais qu'effectivement, Christophe Glaize est toujours en prison. Alors, il y a un pouvoir en cassation qui est prévu, mais enfin, il a été condamné en appel à 7 ans. Il a pris 7 ans en première instance, il a pris 7 ans. Donc, pour l'instant, on ne peut pas dire que les autorités algériennes aient montré des signes de souplesse.
Oui, mais est-ce que justement,
Et on n'en parle pas assez. C'est toujours pareil.
Non, en plus, Christophe Glaize, on en parle très peu.
On en parle très peu.
Alors, on ne voit pas la gauche mobilisée du tout, ce qui est d'ailleurs assez curieux. Alors, elle l'a été un peu au début, et maintenant, on a oublié.
La pression à mettre sur le gouvernement algérien viendrait aussi du fait qu'on en parle beaucoup plus. Et on n'en parle pas assez. C'est un journaliste, encore une fois, qui est emprisonné, qui est innocent, qui n'a rien fait, qui est emprisonné. Et ça devrait faire.
Moi, je pense
ça devrait débuter chaque édition de la presse publique comme de la presse privée.
Alors l'émission quotidien, donc privée, en parle chaque soir, mais c'est pas effectivement le JT du service public n'en parle pas chaque soir.
Comme les Américains avec Maduro, on envoie nos forces spéciales, héliportées ou que sais-je, avec les GSE. On utilise l'arme qu'ils ont utilisée au Venezuela, tu sais, qui a blasté tout le monde, et on récupère Glaize. On récupère notre
sortie. Ça serait vu comme une déclaration de guerre par les autorités algériennes.
Qu'ils essayent.
Bon, c'est déjà tellement entendu depuis des années que ça ne change pas grand-chose.
Franchement,
on est trop faible, donc en fait.
Mais la France n'est pas capable de tenir un rapport de force, c'est ça en fait.
Mettez-vous à la place de Christophe Glaize, qui est en ce moment même en train de moisir dans une cellule en Algérie. On ne sait pas comment il est traité. Et même s'il était bien traité, mettez-vous à sa place, mettez-vous à la place de ses proches. C'est inadmissible ce qu'ils font. Et il faudrait montrer beaucoup plus de punch. Moi, je ne comprends pas d'ailleurs l'attitude toujours très... complaisante et molle.
Il y a une forte communauté algérienne en France.
Algérienne en France soutienne l'incarcération.
Je suis sûr que
pour dire sur ce qu'a dit Charles, pour reprendre les biens qui appartiennent au gouvernement algérien en France, parce qu'il y en a, il y a des biens qui appartiennent au gouvernement algérien, on ne parle pas des ressortissants, on parle du gouvernement algérien, mais ça serait un message fort quand même. Vous relâchez pas Glaize, avait terminé.
Oui, mais on est toujours
après, il a été condamné à deux reprises, hein, donc on n'est pas dans le dossier, on ne connaît pas véritablement les éléments à charge.
C'est d'avoir vu un opposant au régime, en fait, Kabyle, c'est ça qu'on lui reproche.
Oui. Ouais.
Alors, cet opposant est un terroriste pour les autorités algériennes, donc en gros, il a pactisé avec un terroriste, hein, alors que c'est un journaliste sportif qui travaille pour SoFoot et qui est venu simplement faire son métier parce que ce dirigeant dirige un club de foot.
Oui, mais ça, Olivier, tu en parles parce que c'est ce qui qui a été dit par les médias. On n'est pas dans le dossier. Tu sais, parfois, de temps en temps, il y a des affaires qui sont médiatiques, on en parle. Et puis quand tu es dans le dossier, c'est totalement différent.
Dans ce cas-là, on
qu'est-ce qu'on fait avec nos otages en Iran?
Oui, bien sûr.
Tu sais que les otages en Iran, ils sont jugés comme des terroristes aussi. Alors donc, ils seraient des terroristes. Enfin, il faut.
Oui, non. Je voulais juste.
Pareil, Navalny en Russie, j'imagine qu'il était perçu comme un terroriste. Ça l'a pas obligé de crever dans le fond d'une cellule.
Il y a toujours, je pense, une forme de culpabilisation de la part de la France vis-à-vis de l'Algérie pour la période de la colonie. Et je pense que cette culpabilisation nous empêche de taper du poing sur la table véritablement avec des autorités, parce qu'il faut distinguer les autorités de la population qui passent leur temps à cracher sur la France.
Le régime
algérien, ça fait 70 ans qui dit qu'en fait tous ces malheurs, c'est à cause de la France.
C'est un fonds de commerce politique commode. C'est comme en France, ceux qui disent que tous nos malheurs viennent de l'Europe tous nos malheurs viennent de ceci ou cela.
C'est
la théorie du bouc émissaire. Nous sommes le bouc émissaire du gouvernement algérien.
Pardon, mais Laurent Nunez, il ne se distingue pas par sa fermeté. Enfin, c'est quelqu'un d'assez souple, assez rond. Est-ce que vous pensez qu'il... Peut-être que cette rondeur, si sa méthode fonctionne,
on verra.
Et on va le voir. Encore une fois, le problème, c'est qu'il
va lundi, mardi. Vous croyez que vraiment, mardi, il rentre avec Christophe Glaze dans l'avion?
Impossible.
Enfin, Jérôme, il y a du naïveté.
Mais j'en sais rien, je ne sais pas si je suis naïf.
C'est illusoire.
Ce que je dis, c'est que le vin est tiré, il faut le boire. Il a décidé d'y aller. On ne va pas l'empêcher d'y aller, maintenant il y va.
Je pense qu'il rentrera en disant « ça va mieux ». On a commencé à poser les premiers jalons d'une libération possible, etc.
La cacophonie du gouvernement à l'époque où Retailleau essayait de montrer un peu de fermeté et où Jean-Noël Barrot, se croyant malin, relayait la mollesse habituelle de la diplomatie française, qui est toujours sur une espèce de ligne bizarre. Complaisante avec les dictatures et partisane de l'inaction et de la mollesse déguisée en finesse. Je pense que ça nous a pas aidé cette cacophonie gouvernementale parce que
et les Algériens l'ont profité.
Évidemment, ils se sont jetés là-dessus.
Bon, on verra en tout cas Laurent Nunez qui est donc annoncé en Algérie lundi et mardi sera-t-il assez ferme? C'est la question qu'on vous a posée. Voilà, oh là 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 là, vous dites non à 95%, vous n'y croyez pas du tout. Alors là, c'est clair et net sur le compte X des grandes gueules. Rendez-vous la semaine prochaine, on verra le bilan de cette visite.
Ça dit beaucoup de choses quand même ça, parce que ça veut dire que les Français ont la sensation que la France est en position de faiblesse par rapport à l'Algérie.
Quand Nunez y va, il y va
en position de faiblesse. Ça dit beaucoup de choses.
Une séquence diplomatique de plus. Simplement.
Oui, mais parfois je nous trouve plus dur face à Trump que face au président Tebboune. Je suis assez surpris.
Mais c'est pour ça que je dis que c'est étrange.
C'est étrange. Dans un instant, l'appel d'une grande gueule du ministre de l'Éducation nationale. Le ministre de l'Éducation nationale, face au fléau de la violence, du harcèlement, de ces couteaux qui circulent dans les écoles, il dit bon, l'école ne peut pas tout. C'est aussi aux parents de se bouger, de se prendre en main. Il faut un sursaut collectif. Mais c'est un appel qui a déplu à certains en disant il n'est pas le ministre des parents, pourquoi il nous culpabilise? Est-ce qu'il n'a pas raison, quand même, Édouard Geffray, de dire que c'est aussi aux parents de vérifier si dans le cartable de leur gamin, par exemple, il n'y a pas un couteau le matin? Bref, on en parle avec vous au 32-16, bien sûr, et avec les grandes gueules. À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot, les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
Les grandes gueules sur RMC, RMC Story, avec Sandrine Pégan, l'avocate, Jérôme Marty, le médecin généraliste, Charles Consigny, l'avocat, deux avocats.
Et en force,
je peux vous dire que ça ne rigole pas. Vous connaissez Édouard Geffray?
C'est le charismatique ministre de l'Éducation nationale.
Charles. Il est ministre de l'Éducation nationale.
Moi, je ne le connaissais pas.
Tu le découvres.
C'est le nouveau Jules Ferry.
Bien sûr.
Oui, c'est vrai.
Moi, je dois porter tellement d'attention pour connaître tous les ministres de la Santé que si en plus je m'intéresse aux 7 ministres de l'Éducation.
Oui, ça doit être le 7e ou le 8e depuis 8 ans. Enfin bon, il y en a quasiment un par an. C'est un peu comme les ministres de la Santé. Bref, en tout cas, c'est lui en ce moment, Édouard Geffray. On lui souhaite de durer le plus longtemps possible. Édouard Geffray, face à la violence constaté à l'école, notamment ses coups de couteau face au harcèlement scolaire, eh bien il dit, bien sûr, l'école peut agir, mais l'école ne peut pas tout. Il a écrit une lettre aux parents d'élèves pour leur dire, prenez vos responsabilités. A-t-il raison ? Oui, c'est un courrier qui a en étonné plus d'un et qui a même provoqué la colère de certains. Une lettre adressée par le ministre de l'Éducation à tous les parents d'enfants scolarisés pour les appeler à sensibiliser leurs enfants à l'importance de l'école et à prendre ses responsabilités pour lutter contre la violence au sein des établissements scolaires. L'école fait beaucoup, dit le ministre, mais elle ne peut pas tout. Il faut un sursaut collectif pour préserver l'école face au fléau de la violence, du harcèlement. Alors certains ont été un peu vexés, il y a des réactions. Oui, monsieur Geffray n'est pas le ministre des parents, il n'a pas faire la leçon aux parents. Alors est-ce qu'il va trop loin ou au contraire, il a raison de demander aux parents de s'impliquer personnellement, le 32-16 pour intervenir. Qui veut réagir, Charles ?
Je trouve qu'il a 100% raison. On voit souvent, je pense que ma consoeur Sandrine Pégan peut en témoigner, dans nos dossiers avec des jeunes, notamment des mineurs, qui basculent dans des faits très graves de criminalité ou de délinquance, on a très souvent des parents démissionnaires, il faut dire les choses, hein. Souvent des pères absents, c'est une constante, je trouve.
Oui, c'est vrai.
Pour dire les choses comme elles sont.
Souvent le père qui est plus là.
Pour dire les choses comme elles sont, pour faire plaisir à nos auditeurs de gauche, c'est souvent parce que le père est retourné au pays et que la mère reste seule avec parfois plus de 5 enfants. Donc c'est quand même compliqué, surtout avec des jobs, avec des horaires difficiles et des salaires qui sont pas mirobolants. Et dans ces cas-là, c'est difficile de tenir les enfants. Et on a souvent des parents qui sont démissionnaires. Donc moi, je suis effectivement favorable. Je soutiens cette lettre du ministre. Je pense qu'il a raison de secouer un peu les parents. D'ailleurs, les syndicats de profs qui protestent et tout sont vraiment en dessous de tout. C'est pas la première fois d'ailleurs, mais bon. Et c'est un phénomène de société. C'est pas que dans l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'on a des jeunes aujourd'hui qui sont parfois livrés à eux-mêmes, qui n'ont plus aucun cadre familial, et c'est comme ça qu'on les perd, c'est comme ça qu'ils se déscolarisent, c'est comme ça qu'ils basculent dans des faits graves. Et je suis désolé, oui, quand on a un enfant qui se pointe au collège avec un couteau, bah il y a un moment donné, faut sévir.
Le couteau, il vient pas du collège, il vient de la maison. Jérôme Marty.
Mais d'abord, c'est une lettre d'amour à l'école et c'est une lettre d'amour à la République, sa lettre. Donc elle est fondamentale.
Oh, c'est beau.
Ça fait non, mais elle est très belle cette lettre. Je sais pas si vous avez lu. Et elle rappelle ça, elle rappelle que c'est notre pilier, quoi. C'est le pilier fondateur de notre République, l'école, quoi. Donc, si on laisse tout partir et si les parents abandonnent en quelque sorte l'école en inculquant pas les valeurs de respect que les gosses doivent avoir pour l'école, c'est la fin de tout. Les profs, c'est pas des voitures balayées, quoi. Ils arrivent pas après pour essayer de récupérer des choses qui sont rendues irrécupérables par des parents qui veulent pas s'occuper de leurs enfants. Parce que c'est le cas souvent quand même. Mmh. On a des parents qui sont démissionnaires par rapport à leur gosse. On a des parents où chez eux.
Oui, mais parent démissionnaire, il va pas lire la lettre d'Edouard Geffray.
Démissionnaire, je veux dire que souvent, tu as le règne de l'enfant roi.
Oui.
C'est-à-dire que je te parle pas de ce dont parlait Charles, la mère qui est seule avec 5 enfants et qui est dépassée par la situation, etc. C'est pas sa faute,
non,
la plupart du temps. Mais tu as des parents qui sont en couple, qui sont, ma foi, d'un bon niveau social et pour qui c'est le règne de l'enfant roi. Et quand le gosse prend une punition ou n'importe quoi du prof, on va voir le prof et on va contester la décision du prof en ayant la parole du gosse contre la parole du prof. Je veux dire, à un moment, il faut aussi quand même qu'on remette les choses à niveau et tout le monde doit agir pour protéger l'école.
Ouais, mais Jérôme, j'ai l'impression que cette lettre, elle nous fait plaisir, mais elle s'adresse à des parents qui sont déjà mobilisés. Les parents démissionnaires, ils vont pas lire la lettre d'Edouard Geffray, ils en ont rien à faire.
Ils savent même pas
qu'elle existe. Donc, si tu veux, j'ai l'impression qu'on se fait plaisir, on se dit oui, il a raison, mais est-ce que ça aura un impact? Est-ce que ça va être efficace, Sandrine Pégan? Est-ce qu'il y a des parents qui, tout d'un coup, vont dire, ah oui, il a raison, maintenant, il faut que je m'occupe de mon gamin?
Bon, bien sûr que non, sinon ça aurait été déjà fait depuis bien longtemps. Non, mais c'est sidérant quand même qu'on en arrive à ce qu'il y ait un ministre de l'Éducation nationale qui rappelle noir sur blanc aux parents, faites votre travail. Évitez d'insulter. Donc ça serait les préceptes des parents, mais ça devient sidérant quand même. Je veux dire, c'est qu'on a raté quelque chose à un moment donné. C'est pas possible qu'on en arrive à ce que notre ministre dise aux parents, allez, un sursaut collectif, faites votre travail. Mais je veux dire, bien sûr qu'on ne doit pas faire tout peser sur l'institution. Mais voyez-vous, moi, cette semaine, j'étais dans le métro et je voyais un professeur avec sa classe. Il devait être, je sais pas, peut-être 8 ou 9 et ils avaient 6, 7 ans. Et le professeur disait, alors on l'appelle maître, il disait, mes petits chats, faites attention, mais ne criez pas parce que les usagers à côté ne doivent pas entendre ce que vous dites. Vous devez pas les perturber. Et je me dis, heureusement finalement que les professeurs sont là pour rappeler ce qui peut-être n'est pas dit à la maison. Donc, et je me disais que c'était une bonne chose. Alors, on ne doit pas faire tout peser sur l'institution, mais heureusement que les professeurs sont là pour à un moment aussi rectifier ce qui n'est pas fait à la maison.
Oui, mais encore une fois, moi je veux bien qu'Edouard Geffray dise aux parents « bougez-vous », il a raison. Mais est-ce que l'école est exemplaire? Parce que dans les cas d'harcèlement scolaire, c'est quand même souvent des histoires de « on ne dit rien, pas de vague, on ne remonte pas les informations ».
Des professeurs sur les élèves ou entre les élèves?
Je pense à la petite Camélia. Alors, en plus, il n'y aura même pas de poursuite, puisque le procureur dit qu'il n'y avait rien du tout. La petite Camélia, c'est parce qu'elle vivait. La petite Camélia, elle envoyait des messages à sa mère, elle a l'impression d'être harcelée, de ne pas être écoutée.
Mais tu sais pourquoi c'est classé sans suite?
Pourquoi?
Parce que justement, elle a créé une fausse conversation Snapchat avec des personnes qu'elle aurait mises en cause qu'elle les aurait ciblées en tant que harceleur, et en fait ça s'est pas du tout passé comme ça.
Mais alors pourquoi Camélia elle dit
donc c'était un mensonge?
Mais pourquoi elle dit à sa mère que
parce qu'elle a voulu faire croire ça. Mais moi dès le départ, pardonnez-moi,
donc
en tant qu'avocat, je me suis posé la question, parce que je me suis dit, à partir du moment où elle déclare qu'elle a été harcelée à partir de décembre, elle s'est suicidée malheureusement, et paix à son âme, et bien évidemment soutien à sa famille, qu'elle s'est suicidée début janvier, il y a eu 15 jours de vacances scolaires. C'est que, pardonnez-moi, mais dès le départ j'ai émis un doute sur le fait que cette jeune fille était déjà fragile. Elle était d'une vulnérabilité antérieure. Le harcèlement, bien sûr qu'il a, il a peut-être existé ou pas, mais finalement,
en tout cas,
après l'enquête, non. C'est ce qu'elle ressentait. Mais tu peux pas en 15 jours, même s'il y a le cyberharcèlement et qu'il peut durer la nuit, le week-end, etc. Mais elle était déjà fragile avant. Il y avait des problèmes psychologiques qui ont fait qu'elle est passée à l'acte.
Aurélien est avec nous au 32-16. Il nous appelle d'Agde dans l'Hérault. Bonjour Aurélien.
Bonjour toute l'équipe, merci pour ces échanges.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit le ministre dans sa lettre ?
Alors, d'accord, pas d'accord. C'est compliqué de trancher. Il y a quelque chose qu'il faut juste remettre des choses dans leur contexte. Moi, je suis père d'une ado qui vient d'avoir 18 ans. J'ai des élèves qui ont 17-18 ans. Ces élèves passent plus de temps avec moi qu'avec leurs parents. Ça, faut être clair.
Voilà, vous êtes prof, hein, vous êtes prof, prof de management.
Voilà, prof de management. Donc, mes élèves passent 8 heures physiquement et activement avec moi. Donc, ils passent plus de temps qu'avec leurs parents. Ça, c'est la première des règles. Par contre, quand on leur refait un rappel, justement, des règles à respecter, ils le prennent mal. Et là, par contre, les parents sont là.
Alors,
effectivement, on a des parents absentéistes. Ça veut dire qu'ils ne viennent pas aux réunions parents-professeurs. Ils ne répondent pas à nos mails quand on a un problème de résultat de leur élève. Par contre, quand on les reprend sur un comportement, par contre, les parents sont là.
Pour défendre leur gamin.
Voilà, exactement. Et défendre leur gamin.
Voilà. Donc, jamais pour aller dans votre sens.
Exactement. Dans 99% des cas. Et je suis dans un établissement où tout se passe bien, on n'a pas de problématique X ou Y.
Et quand vous essayez d'expliquer à ses parents que c'est vous qui aviez raison, et ils n'essaient pas de comprendre?
Alors, ils n'essaient pas de comprendre, et même ils remettent en cause, et même, alors on parlait justement, Sarah, et revenez sur la notion de harcèlement, on a même des parents qui nous indiquent.
Sandrine.
Vous êtes à la limite du harcèlement.
Aurélien, c'est Sandrine, mon prénom.
Pardon.
Il y a eu une Sarah, c'était Sarah Salman, qui était aussi avocate.
Ah oui, ah,
mais là, c'est Sandrine Pégan.
Pardon, Sandrine. Non,
je vous en prie.
Autant pour moi. Donc, non, effectivement, on a des parents qui nous indiquent qu'on est des harceleurs. C'est-à-dire qu'on, fait, le fait de rappeler les règles régulièrement parce que le comportement n'est pas respecté, et on va sanctionner avec une punition, un travail supplémentaire, pas obligatoirement une heure de colle, une sanction, voilà. Et ben, c'est du harcèlement de notre part en tant que professeur. Et donc, c'est pour ça que finalement, le ministre a raison de rappeler ça. Mais dans un autre sens, les parents, vous inquiétez pas, quand il y a un problème avec leurs enfants qui vont entraîner soit une sanction qui va être marquée sur leur bulletin pour Parcoursup, pour leur avenir professionnel, ils vont être là. Il n'y a pas de souci. Voilà.
Donc, on a un problème avec les parents, c'est ce que vous dites, Aurélien.
Ah oui.
Pas tous les parents.
Non, on généralise pas tous les parents.
Mais en fait, vous savez quoi, Aurélien? Le problème, c'est qu'on est passé d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que pendant des années, le prof était roi dans sa classe et on remettait pas en cause du tout, même quand ce prof pouvait être injuste. Il y a eu des cas de maltraitance, etc. Et puis il y a eu 68 et autres, et on s'est dit le prof, il faut que les parents soient beaucoup plus impliqués. Donc les parents rentrent dans l'école, peuvent intervenir. Et alors là, maintenant, pour les parents, c'est open bar, c'est-à-dire qu'ils pensent que le prof, il est leur employé, quoi, en fait, en quelque sorte, et que donc on peut lui dire de faire ci, de pas. En fait, on est passé d'un extrême à l'autre, et donc il faut peut-être remettre un curseur. C'est ce qu'essaye de faire Edouard Geffray.
Et il y a plus le relais, si tu veux, avant, tu avais un relais qui se faisait entre en amont. Les parents qui s'occupent du gosse, puis tu avais l'école, et ensuite tu avais l'aval, avec les devoirs à faire à la maison, les parents qui surveillent les devoirs, etc. Et on rendait à la fois le gosse et la copie à l'école, qui reprenait, ainsi de suite. Tu avais une vraie interface. Aujourd'hui, tu n'as plus du tout cette interface, tu as l'impression que l'école, c'est l'ennemi. Tu déposes ton gosse, tu attends tout du prof, et si à la moindre chose, tu tapes sur le prof. Je veux dire, à un moment, quand même, il faut qu'on soit conscient du fait que l'école ne fait pas tout. Et que parents, ils sont là pour instituer et organiser ce relais. Si ce relais n'est plus, ben tout se casse la gueule, quoi.
Mais Olivier, c'est véridique, hein, moi, et il a raison, Aurélien. C'est que moi, depuis à peu près 6 mois à mon cabinet, j'ai un petit peu plus qu'avant des parents qui viennent me solliciter parce que justement leurs enfants ont été sanctionnés à l'école et ils vont peut-être passer en commission de discipline. Je parle pas de la prison, hein, je parle vraiment de l'école, et que du coup ils me demandent pour pouvoir contester.
Ils prennent un avocat
et bien sûr. Et donc on peut aussi y aller. Alors bien sûr on se présente à l'école sans notre robe d'avocat, mais on est là aussi pour essayer de contester. Donc ils viennent et alors nous en tant qu'avocat, donc on doit leur expliquer. Mais attendez, peut-être que votre enfant à un moment donné, bon voilà, il faut regarder le dossier. Mais ils viennent pour contester la décision qui a été prise à l'école parce qu'ils n'acceptent pas que leur enfant à un moment donné a pu fauter.
Ah bah oui, parce que c'est l'enfant roi, c'est l'enfant, on a tout misé sur cet enfant.
Il ne faut pas poser de limite
à l'enfant. Parfait, c'est quelque chose qui ne va pas, quoi.
Puis-je rajouter un petit point, juste, il y a aussi un problème au niveau du ministère, hein, c'est pas uniquement au niveau des parents. Voilà. Ouais. Faut être clair. Moi, je suis en terminale, donc ils préparent le bac, d'accord. Je vous rappelle qu'on n'évalue plus l'orthographe, la grammaire.
Oui.
La calculatrice est obligatoire au bac, on ne peut plus faire de calcul mental. Et nos élèves, on ne peut pas leur faire de calcul mental. Donc, faut être clair, d'accord.
Alors, il reste quoi à apprendre?
Et les devoirs à la maison ne sont pas obligatoires.
Et voilà.
Ah oui, d'accord.
Pourquoi? Parce que on a ce problème qu'on a voulu absolument mettre tous les élèves sur le même pied d'égalité avec des élèves qui avaient des parents qui travaillaient tard et qui n'avaient pas la capacité d'avoir des parents qui pouvaient les soutenir sur leur travail personnel. Oui, et donc, on a estimé que l'élève travaillait toute la journée, ne travaillait pas le soir.
On a qu'à mettre en place des études dirigées, ça existe d'ailleurs.
C'est déjà le cas, mais ça n'empêche que ces élèves ne viennent pas aux études.
Oui, mais vous voyez, donc le niveau baisse, on accepte que le niveau baisse, et après c'est difficile d'être exigeant. En
fait, c'est pour ça que je suis mitigé sur les deux avis.
C'est-à-dire que Edouard Geffray doit être exigeant aussi avec sa propre administration et au niveau qu'on demande aux élèves. Oui, c'est difficile de faire la leçon aux profs si derrière ça ne suit pas.
Ouais, c'est un package en fait. Hein.
Mmh. Oui,
c'est...
Mmh. Merci Aurélien, merci d'avoir appelé au 3216. Merci. Hervé également nous appelle du côté de la Sarthe à Alône. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Vous êtes parent d'élève?
Oui.
Est-ce que vous avez reçu cette lettre?
Non, peut-être qu'elle en a.
Mais regardez votre boîte aux lettres et vous aurez ce week-end la lecture de la lettre de Monsieur Geffray. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit?
Mais attendez, est-ce qu'il ne devait pas faire à un moment donné une économie au niveau des envois postaux?
Ah, mais c'est bien d'écrire une lettre. C'est à l'ancienne.
Ben, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. On peut résumer, les parents doivent se charger de l'éducation et l'école de l'instruction. Donc déjà, pourquoi on appelle ça éducation nationale? Vous voyez, il y a déjà une ambiguïté dans le terme. Et depuis de nombreuses années, notamment avec le fait que les enfants n'ont plus de devoirs à faire, etc., moi j'ai l'impression, par rapport à quand moi j'étais enfant, que les parents ont aussi peu à peu poussé hors du cursus scolaire de leur enfant par l'éducation nationale, c'est comme ça qu'elle s'appelle, elle-même. Donc je suis tout à fait d'accord, c'est extrêmement important que les enfants soient éduqués par les parents. Moi je me suis jamais permis de remettre en cause la moindre décision d'un enseignant sur mes enfants.
Très bien.
Et effectivement, ma dernière est collégienne, quand je vois des fois l'attitude des jeunes, avec ne serait-ce que les surveillants ou les surveillantes, moi quand j'étais gamin, un froncement de sourcils, un raclement de gorge, et les surveillants se faisaient oublier, ça fait à droit. Il y a effectivement. Alors peut-être aussi que les enseignants, le personnel encadrant a peut-être instauré peut-être un peu trop de proximité avec les enfants, peut-être moins de distance qu'il n'avait à notre époque, et du coup, peut-être aussi que ça joue au comportement des enfants. Et de toute façon, moi je suis partisan du fait que l'éducation doit être faite par les parents. Et ça, il n'y a pas.
Oui, sauf que quand l'éducation n'existe pas à la maison, c'est pour ça que Edouard Geffray veut interpeller les parents. Ouais, c'est compliqué.
Oui,
merci Hervé. Alors, on a énormément d'appels au 3216. Ouais. Je peux vous dire que ça vous intéresse ce sujet. Ouais. Il y a Magali qui est avec nous. Il y a Audrey aussi qui vient d'arriver, qui est directrice d'école et qui voulait réagir. Il y a une CPE qui arrive. Bref.
On revient dans un instant, ne bougez pas.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Oh, Jeffrey, remets-nous des glaçons.
Édouard Jeffrey, c'est la vedette du jour dans les grandes gueules.
Son nom complet, Édouard Jeffrey Epstein.
Non, arrêtez.
Je ne vais pas faire des amalgames, mon Dieu.
Édouard Epstein est ministre de l'Éducation nationale, contre toute attente.
On pourrait plutôt dire Édouard Jeffrey les parents, avec cette lettre.
Très bon.
Cette lettre qui leur rappelle à leur devoir. Parce que l'école ne peut pas tout, et c'est aux parents également de lutter contre la violence, contre le harcèlement. Il faut un sursaut collectif. C'est la lettre qu'Édouard Jeffrey a envoyée à tous les parents d'élèves. Magali est avec nous. Elle est parent d'élève. Elle est même représentante de parents d'élèves. Bonjour Magali.
Bonjour.
Du côté de la Seine-et-Marne. Est-ce que cette lettre est la bienvenue?
Alors, pas du tout. Moi, je l'ai reçu par mail et par la directrice et par l'éducation nationale, la direction. J'ai trouvé ça, mais j'ai rigolé.
Pourquoi?
J'ai rigolé parce que on est en train de nous envoyer des lettres pour tout et n'importe quoi. J'ai envie de pleurer. Le problème, il vient pas de nous parents. Il vient de l'éducation nationale. Il faut refaire toute l'éducation nationale. Pour moi, je trouve ça aberrant d'avoir des surveillants, des pions, comme on disait à l'époque, qui ont 5 ou 6 ans de plus que nos enfants. Comment ils se font respecter? Dites-moi, comment faire respecter quelque chose alors que le gamin, il sort à peine des études?
Moi, on a toujours eu des pions assez jeunes.
On
pouvait les corrompre avec des paquets de cigarettes.
C'est des boulots d'étudiants.
Des paquets de bonbons.
Moi, quand j'étais au lycée, on corrompait les surveillants en leur offrant des paquets de cigarettes. Et en échange, ils nous laissaient sortir.
Le pion, ça a toujours été un étudiant, enfin souvent.
Bah oui.
Bah oui, mais à l'époque, peut-être.
Vous préféreriez des retraités?
On pourrait mettre des retraités de l'éducation nationale.
Des personnes un peu plus mûres. Oui,
des énarques, peut-être?
Non, pas du tout.
Des agrégés, peut-être, des professeurs agrégés?
Non, mais
des médecins.
Non, mais moi, j'ai vécu ça. Moi, j'ai vécu où un jeune.
Oui, on a trop de médecins, on pourrait me poser là.
Un surveillant qui était à peine plus jeune que. Quoi, qui était un tout petit peu plus vieux. À peine plus vieux que mon fils. Et qui a de la violence. Et des wesh, et des voilà.
De la part du surveillant?
Et oui, là-bas, ils sont pas formés. Moi, on m'a expliqué, on m'a bien dit gentiment, oui, je sais,
oui,
mais ils sont pas formés.
Madame, honnêtement, quand même, s'il y a des dysfonctionnements de certains jeunes élèves, vous allez pas quand même nous dire que c'est la faute des pions, quoi. Ça vient pas de là, la problématique.
C'est un peu trop gros,
Magali.
Tous,
quand même. C'est un peu court comme raisonnement, excusez-moi, mais ce qu'on voit depuis un certain nombre d'années, l'abandon qu'il peut y avoir.
À la maison, le problème.
Des gosses. Où les profs font face à de la violence, font face à des gosses qui n'ont plus aucun respect pour l'institution. Excusez-moi, mais il y a un travail commun à faire. Si vous démissionnez alors que vous êtes chargé des parents d'élèves, si vous démissionnez en commençant à dire tout est de la faute de l'école, mais on n'y arrivera pas.
Ben oui.
Moi, j'ai été à des conseils de discipline ou des commissions éducatives. Quand vous avez 3 parents en face de vous qui regardent la maman ou le papa et qui dit « Mais vous regardez pas le NT, vous regardez pas, vous suivez pas. » Et que la maman, elle dit « Mais excusez-moi, je travaille de 7h30. »
Oui,
mais ça, on est d'accord.
Non, mais on...
Oui, mais pardon, Magali.
Oui, non.
Pardon, depuis...
énormément.
Oui, non, mais attendez, Magali, tout le monde travaille.
Oui,
eh bien, je veux dire, quand on a un enfant, c'est une responsabilité. Essaie de prendre le temps pour regarder l'UNT, ça prend pas non plus moi, j'ai encore des enfants scolarisés, ça prend pas non plus des heures. Ah ben, j'ai 4 enfants, ils sont pas tous scolarisés, j'ai des grands, mais j'ai encore mon petit dernier qui est scolarisé.
Plus ceux qui n'ont pas déclaré.
D'après Magali.
Je lance un appel d'ailleurs au 32-16. Je ne reconnaîtrai aucun autre enfant, c'est terminé. Ça suffit maintenant. Mais sérieusement, Magali, je comprends bien sûr. Tout le monde est pris par son boulot, etc. Après, quand on a un enfant, il faut consacrer du temps. Et pardon, mais un enfant qui vient au collège avec un couteau, c'est pas la faute des profs.
C'est pas la faute de l'institution. Alors peut-être que les parents n'étaient pas au courant non plus, parce que les mômes sont capables de faire des choses en cachette. Mais enfin, le couteau, il vient de la maison. Si le môme, il passe ses journées sur les réseaux sociaux, dans sa chambre, etc., c'est pas la faute des profs.
Mais non.
Si le môme, il harcèle son petit camarade, c'est pas la faute des profs. C'est quand même la faute de l'enfant et peut-être des parents qui n'ont peut-être pas suffisamment sensibilisé l'enfant au problème de harcèlement. Tu voyais, Magali?
D'accord.
Après, je défausse pas toute l'éducation. Il y a plein d'erreurs.
Non, mais certains parents se cachent. Certains parents se cachent derrière l'excuse d'être dépassés. Donc, les réseaux sociaux, la pression, le travail, la fatigue. D'accord, il y a tout ça. Mais bon, à un moment donné, quand t'es parent, c'est pas un rôle à mi-temps. Donc, Magali, vous pouvez pas dire que, du coup, après, les parents sont culpabilisés parce que, ils peuvent rien faire à la maison. On ne peut pas faire tout peser sur l'institution.
Non, mais je dis pas qu'il faut tout peser sur
C'était votre discours,
sur l'institution. Ce que je veux dire, c'est que là, bah oui, mais c'est ce qu'on est en train de faire. Là, on est en train de faire tout peser.
Non, vous avez raison. Qu'Edouard Geffray se défausse sur les parents non plus.
Est-ce que nous.
Mais c'est pas ce qu'il dit d'ailleurs.
Non, c'est pas ce qu'il dit.
Edouard Geffray dit l'école doit faire son boulot, mais il ne peut pas tout. Donc, il faut pas qu'il se défausse.
Il dit nous avons besoin de vous.
Oui, ils ont besoin de nous, mais nous aussi, on a besoin de. Un cas d'école. Mon enfant a été harcelé. C'est moi qui ai dû changer d'école mon enfant.
Ça, c'est vrai.
Pour qu'il plus harcelé. On en est où?
Alors, Magali, à vous de faire une procédure contre le rectorat.
Parce qu'il y a des directeurs qui disent ah, bah oui, mais non. Ah, bah oui, mais nous, on savait, mais on savait pas.
Oui, non, mais ça, vous avez raison.
Non, mais à un moment donné.
Mais c'est pas le sujet, là.
Non, mais elle a raison, Magali. S'il y a encore trop. C'est pas de vague. Pas de vague.
Qu'il fasse quelque chose. Un directeur, il y a un problème, il n'est pas viré. Il est juste déplacé.
C'est vrai aussi.
C'est ça le problème. Vous faites ça dans le privé, vous êtes viré.
En tout cas, sanctionné.
Où il y a un problème, ah bon, pas de vague.
Mais oui, il y a des profs qui sont nuls pendant 30 ans.
Ça, on est d'accord, mais est-ce que vous ne le croyez pas que si...
Mais ça, elle n'a pas tort, Magali.
Mais elle n'a pas tort, mais justement...
Mais sur d'autres, oui.
Non, mais Magali, est-ce que vous ne croyez pas justement que si on rapproche ces deux mondes qui aujourd'hui sont face à face, à savoir la maison et l'école, si on les rapproche en les interfaçant beaucoup plus, on va diminuer ces problématiques de harcèlement? Elles vont pas augmenter, elles vont diminuer.
Merci Magali.
Si on se parle.
On va vous laisser, Magali, si j'ai beaucoup d'appels. Merci d'avoir appelé au 3216, Magali, donc responsable parent d'élève qui n'a pas tellement apprécié cette lettre envoyée par Edouard Geffray. Il y a Audrey qui est avec nous. Bonjour Audrey.
Bonjour à tous.
Audrey, vous êtes directrice d'école et enseignante. Alors, oui. Est-ce que cette lettre est nécessaire?
Alors, elle est nécessaire, mais je pense qu'elle va pas servir à grand chose, en fait. Donc,
pourquoi?
Moi, j'ai des enfants de 3 ans à 10 ans. Donc, je suis même pas au collège, hein. J'ai pas besoin de couteaux, de RPE qui nous disent que c'est pas aux parents de faire. Mais nous, on n'a plus de bonjour, on n'a plus de merci. Quand on sanctionne, on est toujours remis en cause. On nous traite de menteuse, alors qu'on prend l'enfant sur les faits précis. Ouais. Ça devient terrible. Nous, on se sent abandonnés. Alors, au-delà de la politesse, au-delà de l'éducation, on a aussi tout ce qui est problème de santé mentale, de psychiatrie aussi en classe, qu'on gère tout au quotidien. Et en fait, oui, les parents doivent nous aider. On est dans la coéducation à la base.
Bah oui.
On n'est pas.
Il y a vraiment des parents insupportables.
Alors, il y a des parents insupportables. On en a de plus en plus depuis qu'on a ouvert.
Donnez-nous des exemples, Audrey.
Des exemples concrets. Oui.
Alors, des exemples, j'en ai plein. Allez, un exemple. Vous appelez pour une enfant malade. On va vous dire que ça m'arrange pas de venir la chercher. Que 39,6 de température, c'est pas significatif, et à vous de vous débrouiller. Alors que D'accord. La gamine est dans un état pitoyable. Mmh. Vous prenez un gamin sur qui vous répond, qui vous dit c'est bon, j'ai pas envie de le faire, tu vas pas m'obliger à faire les choses. Vous le dites aux parents. Oh mais c'est qu'il a pas supporté le moment de transition. Vous avez dû mal lui expliquer.
C'était une tempête émotionnelle.
Voilà, c'est ça.
Ouais.
Donc,
oui. Oh là là, mon enfant.
Mais est-ce que vous en faites assez? Est-ce que vous en faites assez sur les enfants harcelés? Parce que c'est quand même quelque chose qui revient très souvent.
arrêter avec ça.
Ça revient souvent là, quand on aborde ce sujet, des parents qui se plaignent que quand leur enfant est harcelé, soit ça n'est pas détecté, soit ça n'est pas réprimé, soit c'est à eux de déplacer leur enfant. Qu'est-ce que vous faites dans ce genre de situation ?
Nous, on a des protocoles qui sont mis en place. Le protocole phare, il est là, il est mis en place.
Il est mis en place dans toutes les écoles, mais pourtant il est quand même pas appliqué.
S'il est appliqué, mais quand vous écoutez les parents et quand vous écoutez encore Magali tout à l'heure, on parle de leur enfant, unique, et c'est que il faut toujours considérer leur enfant comme quelque chose d'important et
d'intouchable.
Et d'intouchable. Et au début, alors on fait les protocoles, on va d'abord parler à la victime, on va parler aussi à ceux qui harcèlent. Mais dans cette lettre, on parle pas que de harcèlement, on parle de fondement de la société, d'éducation, de morale, qu'on n'a plus aujourd'hui. Quand les parents, devant leur enfant, nous remettent en question, comment voulez-vous que l'enfant il ait de l'estime pour nous derrière ? C'est pas possible. On n'en a plus. On n'a plus de respect.
C'est vrai que si déjà à la maison on critique les profs devant les enfants, évidemment, qu'est-ce que vous voulez qu'après les enfants ils voient dans la reproduction, c'est sûr, vous avez raison.
On se sent abandonné, nous, à l'école. On se sent abandonné. Il n'y a pas de sanction pour les parents. J'en ai une, moi, qui est partie en vacances sans nous le dire sur le temps scolaire, et on va vous répondre « Et alors ?» Et alors ? Mais nous, on doit préparer derrière, on doit donner les cours en avance ou faire rattraper le retard à l'enfant. Quel respect on a pour le monde enseignant aujourd'hui ? On en a.
Oui, mais alors Audrey, est-ce que vous pensez que du coup cette lettre du ministre de l'Éducation nationale va faire changer les mentalités avec les exemples ?
Pour tout vous dire, je l'ai envoyé à tous mes parents hier. Je pense que ça peut faire réagir certains, mais ceux qui sont vraiment les 20% qui nous prennent du temps.
Les 20% de connards, c'est ça que vous n'arrivez pas à dire, mais
on l'a bien senti.
C'est 90% de mon temps que je passe en réunion, que je passe
avec ces gens-là.
Avec ces gens-là qui ne comprennent pas, ou quand on me dit à 17h30, j'ai autre chose à faire. Vous avez accessoirement un enfant. Faut plus donner de leçons. Si elle n'est pas apprise, la poésie était trop dure. On peut plus demander, on peut rien demander, on n'a plus de respect. Ouais. Donc oui, cette lettre, il a eu raison de. Ça nous montre aussi le soutien qu'il peut un peu nous donner, parce qu'on en a besoin du soutien. C'est important pour nous de l'entendre. Mais quoi faire ? Comment faire ? Et quelles sanctions donner aux parents qui ne nous écoutent plus ? On est là pour leur enfant. C'est impressionnant. On a l'impression qu'on est toujours contre eux, mais non. On lutte pour ces enfants et on veut les faire grandir. Vrai. C'est notre but et c'est notre vocation. Et si je suis encore là, c'est pour eux. C'est pas pour ça, mais il y a des jours, je vous assure, c'est dur.
Merci de tenir bon pour eux. Merci de tenir bon.
C'est une lettre de reconnaissance sur ce que vous faites, ce que vous êtes, quoi.
C'est pour vous soutenir.
C'est ce genre de lettre qu'on aimerait bien avoir aussi en tant que médecin libéraux ou médecin hospitalier, quoi.
J'aimerais bien que ton ministre de la Santé ou ta ministre de la Santé.
C'est une reconnaissance de ton rôle avec une compréhension de ce rôle. C'est ce qui manque de cette lettre, je trouve. Donc, c'est souvent ce qui manque dans les relations qui entre les ministres et leurs affidés, quoi.
Et encore, moi, je suis bien soutenue.
Merci Audrey.
Merci
Audrey, c'est terminé. Merci pour ces témoignages. Merci pour tous vos témoignages. Je sais qu'il y en avait encore beaucoup. Florence, Julien voulaient intervenir, mais bien sûr, on aura l'occasion de reparler de ce sujet. Dans un instant, la politique, Alexis Corbière face au GG. On a beaucoup de choses à lui dire, Alexis Corbière, face à Charles Consigny, Sandrine Pégan et le docteur Marty. À tout de suite.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules.